La révolte civile a commencé. La révolte civile a commencé.
Ça se manifeste avec les Tchajvus.
Les Tchajvus sont... Les Tchajvus. Oui, ça commence un peu, mais je vais vous dire. Ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement s'arrange pour faire porter tout le poids de responsabilité à ce qu'il appelle les Mitnachalim. Et alors, il se prépare à préparer les massacres que la police palestinienne fera des Mitnachalim. Et en disant on n'intervient pas, c'est de leur faute, ils les ont provoqués.
Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'on peut en faire un schéma de scission entre la juive Samarie et Israël?
Je ne sais pas du tout, c'est faudra...
En quantité juive.
Je ne sais pas.
C'est-à-dire révolte à l'intérieur même.
Non, le seul fait de vouloir rester en Judée-Samarie contre l'avis du gouvernement, c'est contre l'avis du gouvernement, c'est déjà une révolte.
Non, mais
ça revient au même. Le gouvernement l'a très bien compris puisqu'il a mobilisé l'armée contre les Mitnachalim. C'est déjà fait. C'est-à-dire, il faut éviter la Shoah qui se prépare, parce que ce qui est arrivé, c'est une espèce d'insensibilité au gouvernement à toutes les corbanotes, les catastrophes qui peuvent arriver. Maïr Patlaïm, je crois qu'ils sont frappés d'aveuglement. Ils ne se rendent pas compte de quoi il s'agit. Et en disant d'ailleurs très lucidement, nous savons à qui nous avons affaire, en parlant des Arabes, mais ceci dit, il faut faire comme s'ils sont comme nous. Voilà, grosso modo quoi. Donc je veux vous dire, à moins que le gouvernement tombe, c'est la catastrophe. Parce que Israël s'est donné, Israël n'a pas de constitution, mais s'est donné des lois qui tiennent de constitution, qui le ligotent. La plus grande gaffe qui a été faite en 1948, c'est de donner la citoyenneté israélienne des Arabes. La preuve, c'est eux qui ont fait la majorité. La deuxième gaffe, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce que les Haredim voulaient dire lorsqu'ils disaient qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité religieuse de l'État d'Israël. De ne pas comprendre où ça arriverait. Ça, c'est la deuxième gaffe. Quand les choses s'arrangent, ces deux choses-là doivent demander un tikkun. Je veux qu'on trouve un statut pour les Arabes d'Eretz Israël qui ne soit pas la Knesset. Ils ont droit à une assemblée municipale à eux. Et un statut pour les Haredim qui ne soit pas la Knesset. Ils ont droit à une assemblée municipale à eux. À moins qu'ils fassent Shuvah. Il y a toujours un espoir qu'ils fassent Shuvah. Je ne crois pas que leurs rabbins feront Shuvah. Mais je crois que le peuple Haredi est beaucoup plus juif que ça. Et que si on arrive à leur faire comprendre, à leur faire ouvrir les yeux qu'il y a une autre Torah que celle qu'on leur assène, peut-être qu'ils se réveilleraient. En tout cas, chez les Sfaradim, c'est certain. Le jour où les rabbins Sfaradim auraient le courage de parler aux Sfaradim en dehors du Rav Ovadia Yosef et de sa bande de Shisha Sartanim qu'il a à la Knesset, parce que vous savez que finalement, qu'est-ce que c'est Darat Rabbi Ovadia Yosef, Otiot Derei. Darat Rabbi Ovadia Yosef, Derei. Alors, pour ceux qui auraient le courage de dire la vérité à ces pauvres petits juifs, eh bien, ça change. Actuellement, tout le monde est paralysé. Et je ne sais pas si vous savez que la Ravanout Rachid leur appartient. Je ne sais pas si vous savez que tous les tribunaux rabbiniques du pays sont ligotés par les Haredim. Tout. L'agriculture est mise en question cette année à cause de la Shemitah selon les Haredim. Moi, il n'y a pas de limite. Mais tout le reste. Il y a plus de 3000 dossiers de conversion qui sont bloqués partout. Ça veut dire 3000 familles qui n'ont pas d'avenir. Et, enfin, des énormités. Quoi. Et alors, je crois qu'il faut vraiment se réveiller de tout ça. Et puis, quitter cette peur superstitieuse des barbes. Moi aussi j'ai une barbe, mais c'est pas la même.
Quelle est la différence entre légal et légitime?
Ah voilà, légal, c'est d'après une forme de constitution que les hommes se donnent, et c'est conventionnel, un consensus qu'on a décidé, que voilà quelle serait la loi légale. C'est pas forcément la loi morale, la loi juste. C'est le takanon qui dit cela. Et la légitimité, ça veut dire le droit, c'est absolument illégitime que l'État sioniste est à sa tête un gouvernement qui se base sur une majorité arabe. Et avec la pointe de qui d'anti-sionistes, les pires ennemis de l'État d'Israël, ça a été les Haredim, depuis toujours. Et je vais vous dire, c'est très grave, parce que ils ont été responsables d'énormément de malheurs de ces derniers siècles, cette tendance à la Haredim. En particulier, leur responsabilité, bien sûr, indirecte pour la Shoah est énorme. Et seulement, on ferme les yeux là-dessus. Okay? Mais surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Ils ont inventé une forme de judaïsme qui consiste à être parasite des goïms chez qui on vit. Et ils ont continué à être parasites, mais cette fois d'Israël. Et les mots, en leur sens, c'est des parasites, un point. Et on n'a jamais eu le courage de dire la vérité. Pourquoi ? Parce que c'était les arguments des chrétiens contre les juifs, et les arguments des chrétiens étaient des calomnies. Ça continue à être des calomnies. Il n'en reste pas moins que c'est ça la vérité de ces guetours-là. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu des rabbins qui, à la veille de la Shoah, ont eu le courage de dire ça aux Gdoglim, comme ils disaient, qui ont bouclé les juifs dans les guetours au temps de la Shoah. C'est en particulier le Rav Ashlag, le père, l'auteur du Soulam, qui était rabbin à Varsovie, et déjà des années 20, a commencé à tonner de ce qui allait arriver, d'un grand Mekoubal de Varsovie, et puis ses collègues d'Ayanim voulaient le brûler. Il a fallu qu'il se sauve, et il a gagné sa vie comme Mashgiach dans une petite yeshiva de Newark, pendant que la Shoah, qu'il avait prévue, qu'il avait expliqué aux. Dans Varsovie même, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui est en train d'arriver. Tout le monde était contre lui, parce qu'on n'a pas le droit de parler de l'Eretz Israël avant un soi-disant Messie. Le Messie viendra, vous sauvera, ne bougez pas. Il ne faut pas faire comme ces téméim de sionistes qui ont leur chutzpa de décider de s'en aller de la galoute avant que le Messie vienne. Et je suis l'autre, quoi. Vous avez compris la gravité du problème? Pardon, à chacun son tour. Qui d'abord, je ne sais pas.
Monsieur qui d'abord.
Attendez,
il y a quand même des rabbinim sionistes.
Mais oui, mais pourquoi ils se taisent ?
Excusez-moi, qui disent que justement, ils se réfèrent aux prophéties du Rav Kook, qui auraient prévu donc la situation que l'on vit, et qui, pour eux, ils pensent qu'au contraire, au lieu d'être au bord d'une catastrophe, on est au bord d'une géoula, où le bien et le mal sont.
Non, écoutez, je connais.
Est-ce que c'est l'attitude passive ou c'est.
Non, non, je connais ces mensonges-là. Je connais les textes du Rav Kook, hein, et je connais les mensonges qu'Omer Kazava vous raconte sur ces thèses du Rav Kook. Ce qu'il en est, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce qu'il en est. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que moi, personnellement, j'ai rompu complètement avec tous ces gens-là. Hein, même ceux qui ont été mes élèves, si vous voulez savoir. Parce qu'il s'agit d'une fausse attitude qui consiste à dire le chef du gouvernement, c'est le Meller, on doit respecter le Meller. Un chef de gouvernement qui ne se base pas sur une majorité juive, d'après la halakha, c'est pas le Meller. Et il faut dire la vérité. En conséquence, ce sont des gens qui sont travaillés par un humanisme faux. D'ailleurs, la majorité d'entre eux, leurs rabbins y compris, sont des balais de tchouva de la gauche. Alors que ça travaille. Alors, méfiez-vous de ça.
Monsieur, vous avez parlé de la sensibilité du gouvernement.
Vous êtes en train de vous demander si j'ai pas mangé de la vache enragée cachée.
Non, c'est vrai. La sensibilité du gouvernement n'est pas simplement la sensibilité du gouvernement, mais d'une grande partie du peuple israélien qui s'est embourgeoisé et qui vit comme en Europe, qui a oublié ce que c'est Israël.
Exact.
Par rapport à Ben-Gurion, par rapport à Moshe Charette, par rapport à Herzl. C'est des bâtisseurs.
Par rapport même, je vous dirais, par rapport même.
Le Shabbat, je les avais pas. Le Shabbat, je les avais pas. Ils ont tout ce qu'ils ont. Ils ont les minous, plein de minous. Ils ont des avodes, plein de ils les font taire avec ça. Ils font faire ça pour leur donner une façon de vivre bien.
Oui, mais vous avez raison. C'est la raison pour laquelle.
Alors, nos rabbins, il y a nos rabbins. Nos rabbins, pourquoi ils n'ont pas décrété une grande prière, une grande tzaka avec Sofaro et avec aussi les comtés, chaque âme d'Israël
avec comment le faire en Tunisie. En Tunisie, une semaine avant la fin de la guerre 42, les rabbins ont appris qu'il y avait les masrefot, les faux crématoires à Jebel Jelloun. Ils ont décrété un dimanche, je me rappelle, j'avais 12 ans. Je me rappelle, une journée dimanche, c'était un jeûne d'Ibour des mais le soir, chacun amenait un demi-dinar, c'est-à-dire un demi-dinar, pour chaque âme. On a compté les enfants d'Israël. On a compté les enfants d'Israël. Une semaine après, on n'avait plus les avant. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Il y a eu une tahaka de là, à Shamaï, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là?
Je veux dire deux choses. Ça a eu lieu en Roumanie, pendant la guerre. Il y avait un dictateur, j'ai oublié son nom. Les rabbins de Roumanie ont décrété un jour de jeûne. Dans la semaine, il est mort, d'ailleurs. Mm. Et ça, je m'en souviens très bien. J'avais 18 ans. Et alors, je suis quand même plus âgé que vous. Et alors, Shabbat dernier, la Rabbanout a décrété une journée de prière. Je ne sais pas si dans vos synagogues, on vous l'a dit. Non, partout, pour tout le pays. Non, mais le problème est beaucoup plus grave. C'est que, d'abord, vous avez raison pour la dishout du peuple. Okay? C'est une question de margarine. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a derrière, c'est un diktat de l'Amérique. Vous passez par là, ou bien on vous coupe les vivres. Et par conséquent, c'est évidemment, Vaishman, Yeshurun, Vaibat. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est que vous posez une question grave, et où sont les rabbins? Quand vous avez par exemple les rabbins du Merkaz arabe qui résonnent, comme vous avez dit, alors flats, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est la fin du monde.
Que... On dirait qu'ils ont peur pour leur place.
Oui.
Ils se
non, je ne sais pas. C'est vraiment très, très grave. Si les rabbins du Merkaz arabe ne font pas de tchouva officiellement, le Merkaz arabe, bon, c'est devenu une secte parmi les autres, tout simplement. C'est-à-dire une secte dont le slogan, c'est Klal Israël, mais c'est une secte du Klal Israël, et finalement, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes, et pas du Klal Israël. Et malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Regardez les écoles qu'ils ont fait pour leurs enfants, et que personne ne peut rentrer dedans, par exemple. Okay. On va commencer à dire toutes ces vérités-là. Okay. Alors, méfiez-vous de ça. Okay. Ça, je vous garantis que c'est pas n'importe qui parle des œuvres du Rav Kook qui peut parler des œuvres. Vous demandez toujours où c'est écrit. Alors, bien sûr que depuis 6000 ans, on a l'espoir de la Géoula arriver au. Mais à la veille de la Shoah, on avait aussi l'espoir de la Géoula. Alors, on est en train de voir ce qui se passe et on est en train de tomber dans la même erreur que les rabbins des Haredim en Europe. Bougez pas, il va y avoir la Géoula. Il y a une seule Géoula de ce genre, ça a été le passage de la mer Rouge. On est arrivé dans le passage de la mer Rouge. Moïse savait où était le passage à Gué. Il a dit, voilà. Non, ils vont mieux présenter ces choses-là. C'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je dois vous dire, comme Merkaz Arab, il y a une bagarre intérieure entre trois tendances. Alors si déjà une bagarre intérieure entre trois tendances, des gens qui tous, enfin les grands, ont entendu enseigner le Rav Kook, le fils en tout cas, c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire que sur l'essentiel, on s'invente des philosophies humanistes, soi-disant? Le Rav Kook a été l'interprète de Torah Moshe et pas de telle ou telle idéologie ex-gauchiste. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très important. Lorsque dans une yeshiva, le rôle des rabbanim, c'est des balai tshuva, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bon, je vais faire la parenthèse. Allez, il y a une question encore par là après vous.
Finalement, dans le schéma que vous voyez, finalement, ça serait soit un événement en bien, la chute du gouvernement, soit une catastrophe. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose qui pourrait se passer de beaucoup plus long et de beaucoup plus, je dirais, lancinant, comme finalement on a bien donné Yamit? Et il y a la majorité des Israéliens aujourd'hui qui pensent que finalement c'est encore une bonne chose.
Oui,
il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu.
C'est évident que ça n'a rien à voir. Yamit, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, Yamit, c'était. Bon, c'est l'histoire de Moshe Dayan, ça, Yom HaDin, il s'expliquera. C'était finalement une petite chose en quantité, en qualité, par rapport à 150 Israéliens qui sont dans Yehuda Veshomon et Hever Hazar. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit?
150.
1000, oui. Et et que le gouvernement dit cyniquement, par petite dose, parce que finalement, les gens qui ont voté pour Rabin, ils ont voté pour Rabin. Et qu'est-ce qu'ils ont, Peret et Bélin, et Ramon et Chahal, qu'en? Alors Chahal va péter un petit tour. Et c'est que, et ils leur, par petite dose, ils disent, mais on ne vous a pas dit, mais maintenant on vous le dit, il faut vous attendre à des corbanotes, vous avez... faites attention, on va armer la police palestinienne, c'est avec elle que vous aurez affaire, pas avec Sharon Ayami. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous avez 15 000 anciens prisonniers, au moins les trois quarts, armés par Israël, qui vont prendre position comme armée de libération, et on laisse dire, et on laisse dire, on laisse faire, et c'est que de deux choses, une, où le gouvernement tombe, et on reprend ces discussions sur d'autres conditions. C'est pas la paix qui est en question. Si le monde arrive à faire la paix, la malo, mais c'est d'autres conditions. Ou bien, finalement, ça va arriver d'étape en étape, d'autant plus que vous savez que déjà le gouvernement, moi je ne parlerais pas comme ça si je n'avais pas eu deux expériences de ce genre dans ma vie. La première c'est Munich, la deuxième c'est Evian, et la troisième c'est Oslo. Et c'est la même chose. On a diabolisé un ennemi, et subitement on diabolise les victimes de l'ennemi, et l'ennemi est angélisé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et alors, que dans un problème pareil, des yeshivot comme la Khazara font de la philosophie humaniste, il faut être complètement siphonné, tout simplement. Bon, voilà ce que je vous ai dit. Attendez, une minute. Non, ce que je voulais vous ajouter, moi je ne suis pas un homme politique. Et je vous répète, moi je vous explique dans les textes comme je peux. Ceci dit, les consignes politiques chez les hommes politiques. Le jour venu, on vous donnera des adresses.
Dommage.
Mais si je vous donne ce soir des adresses, demain j'ai le Shin Bet ici. Alors, le Shabbat. Bon, en vrai. Mais on vous donnera des adresses. Il faut faire ça avec beaucoup d'adresses. mais encore une fois, faites attention. Ce n'est pas des rabbins qui doivent donner des consignes politiques. Méfiez-vous de ça. Vous êtes assez grand et intelligent pour savoir de quel côté vous devez chercher des consignes politiques. Politique, c'est pas rabbinique. Comment ce que je voulais vous signaler, c'est qu'il faut être prêt. J'ai pas dit que la catastrophe va arriver, je souhaite qu'elle n'arrive pas. Il faut être prêt qu'au premier signe où ça commence, alors il faut qu'il y ait une désobéissance civile pour commencer à alerter ce qui se passe. Je sais même pas si ça servira à quelque chose. Parce que je me rappelle d'un. Quelque chose que m'a dit une fois Manès Perber, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Manès Perber, une lampe dans l'océan,
oui,
c'est lui, une lampe dans l'océan. Il avait dit, nous avons été, à la fois nous avons été victimes de notre capacité d'espérance, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, jusqu'à ce qu'on est rentré dans un pas chez l'Onishbar, et là, le piège s'est refermé. Alors il faut savoir qu'il faut être vigilant. Ce que je crains, c'est que si ce gouvernement ne tombe pas, et si on n'a pas le courage d'enlever cette garantie rabbinique à cette espèce de politique de suicide, dans 5 ans, il n'y a plus l'État d'Israël. Et par État. Même avant 5 ans, il n'y aura plus l'État d'Israël. D'abord, il y aura une irida massive, parce que les Juifs ne sont pas fous. Ils laisseront se suicider ceux qui veulent se suicider. Et puis, finalement, une des dernières étapes, ce sera que Weizmann demandera la protection de l'Égypte sur les colonies juives en Palestine, et que l'Égypte n'attendra même pas, et qu'il n'y aura plus d'État d'Israël. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place dans le projet. Alors c'est pour ça qu'il faut arrêter ça, et cesser de faire de la religion, alors que c'est un problème politique. Cesser de continuer à parler de Emunot Vedeot, alors que c'est un problème de Milhama, purement simplement. Il faut être... Vous savez, moi j'ai fait la guerre dans deux corps de métier. Je sais qu'est-ce que c'est que la guerre. Et à partir du moment, je veux dire la guerre contre les Allemands. À partir du moment où il faut faire la guerre, c'est la guerre qu'il faut faire. Quand j'étais sur le front, vous croyez que j'allais raisonner les droits de l'homme du SS. Ça va pas, non? Alors, on en est là. Alors quand j'entends Marquez Arabe, les droits de l'homme des Arabes. Une paire de gifles, oui. Bon.
Quand vous avez parlé d'Isaac, vous avez dit qu'il est tourné de lui chez lui.
Oui, je vais vous dire, le grand mérite des trois patriarches d'ailleurs, mais surtout de Isaac, c'est qu'ils ont accepté, alors que ce pays était à eux, d'avoir passé le pays des Hébreux. Et c'est de eux, revenant de l'exil de Babel, qui redevenaient Hébreux. Et que Dieu a confirmé que c'est, ce pays leur appartient, malgré l'ONU et la Ligue des droits de l'homme. Ils ont accepté d'être étrangers chez eux. Et la Midrash dit, pour économiser un temps d'exil à leur descendance. Parce qu'ils ne savaient pas si leur descendance aurait le mérite qu'eux pouvaient avoir. C'est un problème de chercher la mère. Hein. Ils peuvent être sûrs d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas être sûrs de leur descendance, ça dépend avec qui ils auront ces enfants. C'est un autre problème annexe, mais que je signale en passant. Vous vous rappelez d'ailleurs du scrupule des patriarches, comment marier le fils de la promesse. Et en particulier Yitzhak, la Torah le fait vivre dans un endroit qui s'appelle Gerar, l'endroit des guérines. Il est guér chez lui. C'est Yitzhak surtout qui est le guér chez lui. J'espère que c'est clair la réponse. Bien, alors écoutez. Oui, bon, ça c'est un autre aspect du problème. Heureusement que Rivka était là. Ça c'est un autre aspect du problème. Effectivement, il faut bien se rendre compte que Ésaü a été cet autre qu'Israël qui a réclamé ce pays comme étant sa terre sainte. Le monde chrétien a réclamé ce pays comme étant sa terre sainte. Bon, c'est un autre aspect du problème, mais en tout cas, ce n'est pas en tant que fils d'Abraham qu'on peut avoir les droits le droit total sur Israël, c'est en tant que fils d'Isaac. J'avais un dernier texte, mais on l'avait étudié il y a une année, que je vous explique comme ça, vous l'étudierez par vous-même. C'est un texte du Zohar, mais je vous l'ai photocopié dans le Soulam. En bas, vous avez la traduction en hébreu. Bien. C'est que, je vais vous dire comment le Rav Tzvi Yehuda nous a enseigné cela. Jusqu'à la guerre des six jours, l'opinion publique mondiale et juive était pour Israël. À partir de la guerre des six jours, il y a eu une volte-face. Parce que jusqu'à la guerre des six jours, on avait affaire à des chrétiens, en Érythrée, les Anglais. À partir de la guerre des six jours, il s'agissait des habitants des territoires qui étaient musulmans. Alors là, c'est devenu très difficile. Alors pourquoi, lorsqu'on avait affaire à des chrétiens, c'était facile, enfin dans la difficulté, mais c'était facile. Dès qu'on a eu affaire à des musulmans, c'est devenu difficile. Alors le Zohar répond, parce qu'ils sont circoncis. Mais il y a une différence entre la circoncision d'Ishmaël et la circoncision d'Isaac. Et le Zohar enseigne, le mérite de la circoncision d'Ishmaël ne joue que quand le pays est vide de Juifs, vide d'Israël. Et là, il y a une responsabilité terrible à ce qui empêche les Juifs de faire leur alia. Parce que dans ce pays, c'est ou un arabe ou un juif. Et la preuve, c'est qu'ils ont réclamé leurs droits sur le pays, pas du tout sur la partie qu'on a pris des chrétiens, des anglais, mais sur la partie qu'on a pris des musulmans. Ils n'avaient pas de souveraineté nationale, il n'y a jamais eu une souveraineté nationale arabe sur le pays, mais il y avait ce mérite de la circoncision d'Ishmaël. Et alors, j'ai entendu des Haridim citer ça, que Ishmaël a une protection divine parce qu'il est sans citer la fin, et que ça lui donne des droits sur Israël quand il n'y a pas Israël. C'est-à-dire, j'ajoute cette phrase, je répète cette phrase, la responsabilité des gens qui empêchent un juif de venir ici, ils ajoutent un musulman ici. Ça, c'est le Zohar que je vous cite. Okay. Et alors, effectivement, le Rav Kook nous a enseigné, d'une part, pour la première partie jusqu'à la guerre des six jours, et ça c'était le premier sionisme, on n'avait pas tellement besoin d'un sionisme d'après la Torah, parce qu'on avait en face que Ésaü. Mais pour la deuxième partie, à partir de la guerre des six jours, il a fallu un sionisme fondé sur la Torah, parce qu'on avait en face Ishmaël. Et c'est à la guerre des six jours que Gush Emunim a été fondé, le sionisme au nom de la Torah, et que les sionistes du premier sionisme étaient contre, parce que ça dévoilait leur manque de foi dans un sionisme total. Je pense que c'est suffisamment clair. Je vais ajouter quelque chose, c'est que le Rav Kook a enseigné que à déclaration de Balfour, il appelait ça sitra, un secret dans un secret. Il y a eu un miracle dans un miracle. Pendant des années, il y a eu une discussion après la Première Guerre mondiale entre les Français et les Anglais de savoir si la Palestine serait en mandat français ou en mandat britannique. Et finalement, c'est tombé chez les Anglais. Et ça, c'est le premier miracle. Parce que les Anglais sont protestants. Et les protestants n'ont pas le même lien sur les lieux saints que les catholiques. Ça a été les Français, ça aurait été beaucoup plus difficile qu'avec les Anglais. En tout cas, le premier miracle, c'est que c'était les chrétiens. Des chrétiens, on peut facilement leur reprendre la terre. Parce qu'ils ne sont pas circoncis. Alors qu'à partir de la guerre des six jours, c'est devenu très dur à cause de la circoncision d'Ishmaël. Vous avez compris un peu le problème ? Ça se rattache un peu à ta question. Ken, qu'est-ce que tu veux ?
Puisqu'on ne peut pas compter sur les rabbins, on pourrait compter plutôt sur cette majorité du juif religieux qui sont encore saints dans leur esprit. Pourquoi ne pas tenter de faire révolter ces juifs religieux contre les rabbins ?
Oui, mais qui va le faire ? Si c'est les rabbins, ça ne marchera pas. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'ils sont encore dans une espèce de type de respect superstitieux de leur propre rabbin, qui fait que si d'autres rabbins parlent, ils ne les écouteront pas. Il faut que ce soit des chefs politiques. Et il faut que ce soit des chefs politiques chilonimes, qui aient le courage de proclamer que pendant 5 ans, pendant 10 ans, on s'occupe d'Eretz Israël, et la guerre entre chilonimes et datim, on met ça de côté. Et de telle sorte de récupérer les sionistes des haredim et les datim du maharach. De telle sorte de refaire une autre coalition complètement différente. On travaille là-dessus, mais enfin, il y a très peu de chefs politiques chilonimes qui ont le courage de voir la vérité en face. Mais n'espérez pas du tout que le Kahal de chasse de Gdat Israël entendra un quelconque rabbin autre que les leurs. C'est évident. Il faut que des chefs politiques leur proposent un contrat. On fait une trêve sur le statu quo et sur le statu quo religieux et on sauverait Israël. Et alors, et qu'ils donnent quelque chose en retour. Je parle des Chilonim. Bon, on travaille là-dessus depuis quelques semaines, mais c'est calouche parce qu'il n'y a pas. C'est Doriatum. C'est Doriatum. Cette même semaine, on a commémoré l'Askara de Ben Gurion, de Golda Meir. Et alors. Vous avez remarqué comment les médias ont cité des citations à la Pérès et à la Rabine, alors que ces deux-là étaient contre tout ce qu'ils racontent. Ben, moi, j'ai vécu cette époque, je les ai entendus parler quand vous étiez vivants. Mais, alors, voilà, grosso modo, je crois qu'il faut se rappeler de ce qu'a dit Moïse à Josué, « Alo tzibitira hazak ve'ematz ». Alors, la dernière, hein. Parti fort.
Comment peut-on expliquer le comportement des Israélites qui apparemment est prêt à utiliser la violence contre.
Et comment. Comment expliquer le comportement de Begin qui a demandé à Sharon d'utiliser la violence à Yamit? Il y a plusieurs explications psychologiques possibles. Mais je ne sais pas si vous remarquez, si vous suivez les. Le voyage de Rabin, qu'il a complètement perdu les pédales.
Oui.
Oui. Un jour, ça va éclater. Seulement, on n'a plus le temps. C'est le 13 décembre.
Il court après le départ.
Donc. Bien, eh bien, il est tôt quand même. Alors, on se revoit mercredi pour le temps de
poche.
C'est demain.